Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Ressources, la conversation et cœur plus AVC. Au programme, gestion de la diversité de l'équipe et de l'inclusion, j'ai dit remettre les pendules à l'heure. Voici pourquoi il est déconseillé de prendre une douche pendant un orage et pour un cœur en santé en hiver. Bonne écoute!
Gestion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. GEDI. Remettre les pendules à l'heure. Un texte de Tania Saba, paru le 25 juin 2019 dans Ressources. Les mots « diversité » et « inclusion » sont revendiqués par les gouvernements dans l'élaboration d'initiatives et de politiques, par les organismes comme faisant partie de leur ADN et sur la place publique comme un débat social à tenir de toute urgence. Malgré un cadre légal et des initiatives gouvernementales proactives, force est d'admettre que les objectifs d'intégration et de promotion sur le marché du travail ne sont pas atteints. Malgré une participation active en forte hausse, une scolarité plus élevée et des qualifications comparables, les groupes issus de la diversité, les femmes, les minorités visibles, les autochtones et les personnes en situation de handicap, affichent des taux de chômage plus élevés, un accès au marché du travail déficient, des parcours professionnels plus difficiles et une sous-représentation dans diverses fonctions au sein des organisations. Rappelons que la diversité sur le marché du travail couvre également les personnes qui risquent de la discrimination pour des motifs couverts par la Charte des droits et libertés de la personne, notamment l'âge, l'orientation sexuelle, le statut social et l'origine ethnique. La gestion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, GEDI, dans les milieux de travail est donc déterminante quant à la capacité d'intégration, d'épanouissement et de développement des membres des groupes qui sont sous-représentés et considérés socialement plus vulnérables. Cependant, on sait peu à quel point une organisation et des effectifs plus diversifiés ont une incidence sur les expériences quotidiennes des employés, des gestionnaires et des professionnels, RH, PRH. Afin de combler cette lacune, l'Organisation de coopération et de développement économique a entrepris une enquête sur la diversité sur le lieu de travail. Cette étude a été menée en 2018 en collaboration avec la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal, l'Université Paris-Dauphine et l'Ordre des CRHA. L'étude et son contexte. Au Québec, 710 PRH ont répondu à l'enquête par questionnaire. Ils œuvrent en majorité au sein d'entreprises privées, 71%, alors qu'un moins grand nombre, 29%, travaille au sein d'organismes publics. Les tailles et les secteurs sont bien représentés dans l'étude et nous avons pu en tenir compte dans nos analyses. Ainsi, les domaines de la construction et du commerce affiche une plus faible probabilité d'avoir mis en œuvre des programmes de GEDI. Au contraire, les secteurs de la finance, de l'administration publique et de l'éducation affichent une plus grande probabilité d'en avoir déjà instauré. Notons également qu'il est plus probable de retrouver des mesures en faveur de la GEDI dans les entreprises publiques que dans les entreprises privées. L'intérêt croissant des organisations à l'égard des questions de diversité, autant à travers le pays qu'à travers l'organisation, est considérable. 87% des PRH affirment qu'ils anticipent que la diversité verra son importance croître à travers le pays au cours des 5 prochaines années. 65% d'entre eux estiment que l'importance accordée à la diversité sera marquante à travers leur organisation. Malgré cette réceptivité envers la GEDI, seulement 42% des PRH ont déclaré avoir déjà mis en place des pratiques de GEDI et seulement 8% comptent en instaurer, alors que 37% disent n'avoir aucun plan concret pour le faire. Un résultat paradoxal qu'il est intéressant d'examiner plus en profondeur pour comprendre les motifs, les obstacles, les besoins et les actions mises en place qui favorisent ou freinent l'instauration de programmes de GEDI. Quels sont les groupes visés par la GEDI? En examinant à la fois les groupes visés par les mesures de GEDI actuellement instaurées et celles à prioriser au cours des 5 prochaines, on peut constater la grande sensibilité des PRH aux effets de l'évolution socio-démographique de la population active du Québec. De manière générale, les femmes et les minorités visibles demeurent fortement visées par les mesures de GEDI. Notons plus particulièrement la forte augmentation de l'attention qui sera accordée au cours des 5 prochaines années aux personnes immigrantes, à celles en situation de handicap, aux autochtones, aux travailleurs plus âgés, aux groupes des personnes LGBTQ et aux personnes en provenance de milieux défavorisés. Quels sont les motifs en faveur de l'instauration de pratiques de GEDI? À partir d'une liste de 10 incitatifs, les PRH qui ont annoncé avoir mis en œuvre des mesures en faveur de la GEDI devaient indiquer les motifs qui les avaient incités à le faire. Ces incitatifs couvrent à la fois des considérations d'équité, d'éthique et légales. Ils tiennent compte de la position des dirigeants et des employés à l'égard de la diversité. Ils font également référence aux avantages que l'on peut retirer de la diversité pour répondre à la rareté des compétences, enrichir le capital humain, stimuler la créativité et réfléchir à de nouvelles méthodes d'attraction des consommateurs. L'enrichissement du capital humain a été identifié en tant qu'incitatif par 67% des organisations ayant instauré des mesures de GEDI, l'importance du soutien des dirigeants par 52% et la conformité aux exigences légales par seulement 37%. Par ailleurs, nous avons examiné de plus près les motifs jugés déterminants par les PRH dans l'atteinte des objectifs en matière d'équité, de diversité et d'inclusion et DI. Répondre à une pénurie de main-d'œuvre, à une priorité établie par la haute direction, aux exigences légales, de même que l'enrichissement du capital humain, se sont avérés être les éléments significatifs qui influencent positivement l'atteinte des objectifs de la GEDI. Vous écoutez « Gestion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, GEDI, remettre les pendules à l'heure », un texte de Tania Saba, paru le 25 juin 2019 dans Ressources. Quelles sont les pratiques de GEDI mises en place? Malgré les efforts investis dans le but de mettre en place des pratiques visant la GEDI, le bilan demeure modeste. Soulignons l'accent mis sur des mesures incontournables, telles que la formulation d'un véritable engagement organisationnel en faveur de l'EDI, ainsi que des initiatives de formation destinées à tous les employés. Les organisations qui atteignent leurs objectifs de représentation affirment avoir mis en place, à l'intention des groupes sous-représentés, un comité consultatif ou un réseau pro-diversité. Elles ont misé sur des programmes de mentorat, des réseaux internes ou des associations pour attirer des candidats compétents issus de la diversité et promouvoir leur carrière. Les programmes de formation à la diversité ou de management interculturel pour tous les employés les ont aidés à atteindre leurs objectifs de diversité. Quelles sont les mesures que les professionnels jugeraient utiles pour accroître la représentation des divers groupes dans l'organisation? Parmi 10 initiatives, les PRH ont eu à indiquer celles qu'ils jugeaient utiles pour améliorer la représentation des divers groupes dans l'organisation. Ces initiatives référaient à des pratiques visant à favoriser l'accès aux postes et à l'avancement professionnel, à l'évaluation de l'atteinte des objectifs DDI, ainsi qu'à la transformation de la culture organisationnelle en faveur de l'EDI. Les PRH lient l'atteinte de leurs objectifs en matière de GDI à l'importance de l'acquisition d'une plus grande expertise. Il réclame que plus de formations en GEDI soient dispensées à l'ensemble des employés, ainsi que la mise en place d'objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les postes de direction et les postes non managériaux. Ils évoquent la pertinence d'une plus forte prise en compte de critères de diversité lors du recours à des fournisseurs publics. Pourquoi faut-il remettre les pendules à l'heure quand il est question de GEDI? La GEDI réfère à un ensemble d'actions et d'interventions coordonnées dans le but de créer un environnement qui permettra à tous les employés d'atteindre leur plein potentiel tout en poursuivant les objectifs de l'organisation. Elle est incontournable pour rendre les organisations plus équitables, diversifiées et inclusives. Malgré un discours prépondérant sur l'importance de faire preuve d'ouverture et de tirer parti de la diversité, les PRH, ayant pris part à l'étude, font d'abord état de la disparité dans l'instauration de programmes de GEDI, notamment en fonction du secteur et de la taille de l'entreprise. Ils identifient ensuite les incitatifs, les obstacles et les moyens qu'ils associent à une plus grande capacité d'atteindre les objectifs des DI, dissipant ainsi plusieurs mythes et jetant un éclairage sur des éléments cruciaux. Premièrement, les organisations qui ont adopté des pratiques en faveur de la GEDI et qui atteignent leurs objectifs le font pour une combinaison de motifs qui sont indissociables. Elles aspirent à l'atteinte de l'équité et à la satisfaction des exigences légales. Elles s'efforcent de combler les besoins en compétences en diversifiant celles-ci et en élargissant les bassins de recrutement, notamment dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre. Elles visent une contribution de la diversité à la performance organisationnelle par l'enrichissement de leur capital humain et la stimulation de la créativité. Deuxièmement, les PRH constatent que les barrières qui empêchent l'instauration de mesures en faveur de la GEDI sont fortement présentes. Elles vont même jusqu'à nuire à l'atteinte des objectifs des DI dans les organisations qui ont des mesures en cours. Parmi les obstacles à lever, notons la difficulté de faire valoir l'intérêt de la gestion de la diversité, de vaincre le scepticisme des employés à l'égard des plans d'équité et d'orienter les visées de la haute direction vers le long terme. La difficulté d'attirer des candidats qualifiés issus de groupes diversifiés est paradoxalement évoquée à la fois comme une justification pour ne pas s'investir dans des programmes de diversité et comme un impératif qui vise la mise en œuvre de moyens mieux ciblés pour rejoindre des candidats hors des réseaux habituels. Troisièmement, le constat d'un éparpillement des mesures qui touchent à l'une ou l'autre des composantes d'un programme de GEDI est frappant. Malgré cela, nous sommes à même de constater l'impératif de viser des mesures concrètes qui dépassent le simple énoncé d'une vision en faveur de la diversité si l'on vise à atteindre les objectifs des DI. Faciliter la constitution de réseaux internes, recourir à des associations, promouvoir des programmes de mentorat et instaurer des programmes de formation sur la diversité qui s'adressent à tous les employés sont des actions efficaces évoquées par les répondants. Finalement, les PRH avouent que leur manque d'expertise en GEDI est un obstacle affectant l'atteinte des objectifs des DI. Combler le manque d'expertise dans l'élaboration et l'implantation des programmes de GEDI est jugé comme une mesure incontournable pour rendre les organisations plus inclusives. La formation de l'ensemble des employés se confirme comme une avenue qui s'impose, la diversité étant l'affaire de tous. Ajoutons à cela l'importance de la mise en place d'objectifs DDI et de moyens d'évaluation à la fois quantitatifs et qualitatifs. Conduire des enquêtes internes, évaluer le changement dans les pratiques et observer les adaptations apportées aux normes et aux procédures permet une meilleure prise en compte de la voix des employés et une plus grande efficacité dans l'atteinte des objectifs des DI. Soulignons que les PRH considèrent à juste titre que les organisations qui ont instauré des programmes de GEDI devraient avoir un ascendant sur leurs fournisseurs en ayant recours à eux selon leur niveau d'engagement envers la diversité. C'était Gestion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, GEDI, Remettre les pendules à l'heure, un texte de Tania Saba, paru le 25 juin 2019 dans Ressources.
Voilà pourquoi il est déconseillé de prendre une douche pendant un orage. Un texte de James Rawlings, paru le 16 décembre 2022 dans La Conversation. Le Met Office, Service national britannique de météorologie, a émis plusieurs alertes d'orage jaune pour le Royaume-Uni, soulignant le potentiel d'éclairs fréquents. Bien que la probabilité que vous soyez frappé par un éclair soit faible, il est important de savoir comment demeurer en sécurité pendant un orage. Chaque année dans le monde, environ 24 000 personnes sont tuées par la foudre et 240 000 autres sont blessées. La plupart des gens connaissent les règles de sécurité de base en cas d'orage, comme éviter de se tenir sous les arbres ou près d'une fenêtre et ne pas utiliser un téléphone filaire. Les téléphones cellulaires sont sans danger. Mais saviez-vous que vous devriez vous abstenir de prendre une douche, un bain ou de laver la vaisselle pendant un orage? Pour en comprendre la raison, il faut d'abord expliquer un peu comment fonctionnent les orages et les éclairs. Deux éléments fondamentaux favorisent le développement d'un orage: l'humidité et l'air chaud ascendant, qui vont bien sûr de pair avec la saison estivale. Les températures élevées et l'humidité créent de grandes quantités d'air humide qui s'élèvent dans l'atmosphère. Cette masse d'air peut alors se transformer en orage. Les nuages contiennent des millions de gouttelettes d'eau et de glace, et leur interaction est à l'origine de la foudre. Les gouttes d'eau qui montent entrent en collision avec les gouttes de glace qui tombent, leur transmettant une charge négative et repartant avec une charge positive. Lors d'un orage, les nuages agissent comme d'énormes générateurs Van de Graaff, séparant les charges positives et négatives pour créer de gigantesques différences de charges à l'intérieur des nuages. Lorsque les nuages orageux se déplacent au-dessus de la Terre, ils génèrent une charge contraire dans le sol et c'est ce qui attire l'éclair vers celui-ci. L'orage cherche l'équilibre et il le trouve en se déchargeant entre les régions positives et négatives. Le trajet de moindre résistance est généralement emprunté par ce courant. Les objets offrant une plus grande conductivité, comme le métal, sont plus susceptibles d'être frappés pendant une tempête. Le meilleur conseil en cas d'orage est le suivant: lorsque le tonnerre gronde, rentrez sans perdre une seconde. Toutefois, cela ne signifie pas que vous êtes totalement à l'abri. Certaines activités à l'intérieur peuvent être presque aussi risquées que de rester dehors pendant la tourmente. À moins que vous ne soyez assis dans un bain à l'extérieur ou que vous ne preniez une douche sous la pluie, il est incroyablement peu probable que vous soyez frappé par la foudre. Mais si un éclair atterrit sur votre maison, l'électricité empruntera le trajet de moindre résistance jusqu'au sol. Des éléments tels que des fils métalliques ou de l'eau dans vos canalisations constituent un chemin conducteur idéal que le courant peut suivre pour rejoindre la Terre. La douche fournit ces deux choses, eau et métal, ce qui en fait un itinéraire parfait pour l'électricité. Une bonne douche apaisante pourrait se transformer en quelque chose de beaucoup moins relaxant. Aux États-Unis, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, Centers for Disease Control and Prevention, encouragent fortement les gens à éviter toute activité en rapport avec l'eau pendant un orage, même la vaisselle, afin de réduire le risque d'être touché. D'autres dangers sont à craindre pendant un orage. L'un d'entre eux, qui peut ne pas sembler évident, consiste à s'appuyer sur un mur en béton. Bien que ce matériau ne soit pas lui-même très conducteur, s'il a été renforcé par des poutres métalliques, appelées barres d'armature, celles-ci peuvent représenter un bon chemin pour la foudre. Évitez également d'utiliser tout ce qui est branché sur une prise électrique, ordinateur, téléviseur, machine à laver, lave-vaisselle, car tous ces appareils peuvent constituer des voies d'accès pour l'éclair. En règle générale, si vous pouvez entendre le tonnerre au loin, alors vous êtes suffisamment proche de l'orage pour que la foudre vous atteigne, même s'il n'y a pas de pluie. Les foudroiements peuvent se produire jusqu'à 16 km de l'orage dont ils sont issus. En principe, une demi-heure après avoir entendu le dernier coup de tonnerre, on peut retourner sous la douche en toute sécurité. Les orages aiment généralement une finale en apothéose, et la dernière chose que vous souhaitez, c'est faire partie du feu d'artifice. C'était « Voici pourquoi il est déconseillé de prendre une douche pendant un orage », un texte de James Rawlings, paru le 16 décembre 2022 dans La Conversation.
Pour un cœur en santé en hiver, un texte de Scott Lear, paru le 1er février 2023 dans Cœur Plus AVC. Le temps froid peut nuire à votre santé. Réduisez votre risque grâce à ces conseils de Scott Lear. L'hiver offre des occasions uniques d'être actif. Toutefois, en raison du temps froid, il peut être difficile de faire de l'exercice et le manque de soleil peut vous démotiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes sont plus susceptibles de développer des problèmes liés au cholestérol, à l'hypertension artérielle et au poids durant l'hiver, qui sont tous des facteurs de risque de maladies du cœur et d'AVC. De plus, pelleter de la neige peut imposer un stress indésirable sur votre cœur. Heureusement, vous pouvez éviter ces problèmes en suivant quelques conseils. Pelleter en toute sécurité. Pelleter peut être une excellente façon de rester actif durant la saison froide, mais il s'agit d'un exercice vigoureux. Voici comment pelleter en toute sécurité et réduire votre risque de blessure. Faites preuve de prudence. Si vous avez reçu un diagnostic de maladie du cœur, sachez que pelleter peut surmener votre système cardiovasculaire. Porter un moniteur de fréquence cardiaque est une excellente façon de vérifier l'intensité de vos efforts. Demandez à un membre de votre famille, à un ami ou à un voisin de vous aider en cas de besoin. Échauffez-vous. Une période d'échauffement plus longue est nécessaire par temps froid. Pelletez au rythme qui vous convient. Choisissez la bonne pelle. Il existe différents types et diverses longueurs de pelles. En utilisant une pelle dotée d'une plus petite lame, vous réduisez votre risque de blessure musculaire. Choisissez une pelle dont la hauteur convient à votre grandeur. Une pelle trop courte vous obligera à vous pencher davantage et vous risquez de vous blesser au dos. Prenez des pauses. Il est important d'écouter votre corps et de prendre des pauses. Inversez la position de vos mains et changez le côté duquel vous pelletez afin d'accorder un répit à vos muscles. Utilisez une technique adéquate. La neige est-elle légère et floconneuse ou lourde et détrempée? Dans ce dernier cas, il est préférable d'utiliser une pelle munie d'une plus petite lame pour réduire le poids à soulever. Positionnez bien vos pieds sur le sol. Placez une main le plus près possible de la lame et soulevez la pelle en utilisant vos jambes. Ne pliez pas le dos. Gardez la pelle près de votre corps pour que ce soit plus facile. Ne faites pas de mouvement de torsion du dos. Bougez plutôt vos pieds pour déposer la neige. Restez actif durant la saison froide. Il est possible que vous trouviez difficile d'effectuer les 150 minutes d'activité physique recommandées par semaine lorsqu'il fait froid dehors. Voici des conseils pour vous aider à faire de l'exercice à l'extérieur en toute sécurité. Portez plusieurs couches de vêtements. Cela fonctionne mieux que de porter un manteau épais. Au fur et à mesure que votre corps se réchauffe, vous pouvez enlever des vêtements pour être plus confortable. Portez un foulard ou un cache-cou ou une cagoule ample afin de respirer plus facilement, surtout si vous souffrez d'asthme. Concentrez-vous sur votre échauffement. Échauffez-vous plus longtemps, car votre corps doit travailler plus fort pour garder sa chaleur lorsqu'il fait froid. Ne vous surmenez pas. Visez un taux d'intensité modéré. Buvez beaucoup d'eau. L'air froid et sec peut vous déshydrater. Faites attention de ne pas tomber. Si vous marchez ou courez dans la neige, portez des chaussures imperméables à semelles antidérapantes. Utilisez une paire de bâtons de marche pour vous aider à garder votre équilibre. Prendre soin de sa santé mentale. Il est possible que vous souffriez de dépression saisonnière, un sentiment de tristesse exacerbé par le manque de soleil, le stress supplémentaire et l'isolement social. Voici comment améliorer votre humeur et vous sentir mieux. Passez du temps avec vos amis et votre famille. Le fait d'avoir des conversations avec autrui peut libérer de l'ocytocine, l'hormone des interactions sociales et de l'amour, laquelle vous aidera à vous sentir bien et à réduire votre niveau de stress. Lorsque vous riez, de l'endorphine est libérée dans votre organisme. Cette hormone vous aide également à vous sentir mieux. Faites de l'exercice régulièrement. Dormez suffisamment. Les adultes ont besoin de 7 à 9 heures de sommeil par jour pour préserver leur santé physique et cérébrale. C'était, pour un cœur en santé en hiver, un texte de Scott Lear, paru le 1er février 2023, Cœur Plus AVC.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Jocelyne Langevin à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.